L'actu philo, Claire Bressolette.
L'amendement de suppression de l'article 19 ter qui a été voté à la séance de l'Assemblée nationale du 28 janvier 2022. Mais la question, vous le sentez bien, reste ouverte, étant donné la pression faite par le désir d'aller plus loin, propre à la recherche scientifique d'une part, et les questions économiques d'autre part. De quoi s'agit-il? Un argumentaire qui est celui de Jean-Louis Le Pichon et de Jean Vanier. On mesure le degré de civilisation à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles, du film Le huitième jour, ou même de l'exemple de Anne de Gaulle, née en 1928, trisomique, gardée par le général de Gaulle étant Yvonne à la maison. Elle meurt à 20 ans et le général de Gaulle dit sur sa tombe « Maintenant, elle est comme les autres. Anne était aussi une grâce. Elle m'a aidée à dépasser tous les échecs et à voir plus haut. » Face donc à tous ces arguments qui élèvent l'homme, pris individuellement ou globalement en civilisation, en face, les arguments techniques et sociaux semblent avoir plus de poids, parce que relevant d'un discours scientifique et statistique. Quelle en serait l'explication philosophique? Hans Jonas, dans Le phénomène de la vie, propose de lire une inversion des pôles mort et vie à la Renaissance. Quand l'homme commença pour la première fois à interpréter la nature des choses, écrit-il, ce qu'il fit quand il commença à être un homme, la vie était à ses yeux, partout. Et être, c'était pour lui la même chose qu'être en vie. L'animisme était l'expression largement répandue de cette étape, l'hylozoïsme, une de ses formes conceptuelles plus tardives. L'âme inondait le tout de l'existence et se rencontrait en toutes choses. La matière brute, c'est-à-dire vraiment inanimée, la matière morte était encore à découvrir. Car en fait, son concept, qui nous est si familier, n'a rien d'évident. Que le monde est en vie, c'est réellement la vue la plus naturelle et largement soutenue par ce qui se donne à voir au premier abord. Sur la scène terrestre, au sein de laquelle se bâtit l'expérience et dans laquelle elle est contenue, la vie abonde et occupe tout le premier plan exposé à la vue immédiate de l'homme. La pensée moderne, qui commença à la Renaissance, se trouve dans la situation théorique exactement opposée. La mort est la chose naturelle, la vie est le problème. À partir des sciences physiques et mécaniques, s'étendit à la conception de toute existence une ontologie dont l'entité modèle est la pure matière, dépouillée de tous les traits de la vie. Ce qui, au stade animiste, n'était pas même découvert, a entre-temps conquis la vision de la réalité, évinçant totalement son pendant, l'univers extraordinairement élargi de la cosmologie moderne est conçu comme un champ de masse et de forces inanimées qui opèrent selon les lois de l'inertie et de la distribution quantitative dans l'espace. On ne put arriver à ce substrat dénudé de toute la réalité qu'en expurgeant progressivement des caractères vitaux, le registre physique, et qu'en s'abstenant strictement de projeter dans l'image de celui-ci notre propre sentiment d'être en vie. Au cours de ce processus, l'interdit de l'anthropomorphisme s'étendit au zoomorphisme en général. Ce qui resta, c'est le résidu de la réduction aux propriétés de la simple étendue soumise à la mesure et donc aux mathématiques. Ces propriétés seules satisfont aux exigences de ce qu'on appelle maintenant la connaissance exacte. Et comme elles prétendent avoir le dernier mot sur la vérité et sur le faux, il est impossible de donner à la vie autre chose qu'une articulation en fonction de la mort. En conséquence, c'est l'existence de la vie au sein d'un univers mécanique qui à présent appelle une explication, et cette explication doit être fonction du sans-vie. Sans, écrit S-A-N-S. C'est sur cette toile de fond que nous pouvons comprendre que la récurrence des débats en bioéthique ne peut que se faire dans notre société. À suivre, bonne réflexion.